Oui. Bonjour à tous et merci. Je m'appelle Caterina Franco et cette présentation, c'est dans le cadre d'un thèse de doctorat en architecture qui a commencé il y a un an. C'est une thèse en co-tutelle entre les laboratoires, les métiers de l'histoire de l'architecture de l'école d'architecture de Grenoble et le département ABC du Politecnico di Milano. C'est une thèse dirigée par Catherine Momi et Emilio Faroldi et une thèse qui est soutenue par un contrat doctoral. Donc, je suis au début de mes recherches et pour cette raison, aujourd'hui, je vais plutôt aborder la question de la méthodologie avec laquelle j'essaie d'étudier un objet d'étude. Et c'est dans cet axe que j'aborderai aussi les concepts d'innovation, donc dans une perspective méthodologique. Et je crois que c'est aussi très en continuité par rapport à la présentation qu'on a écoutée avant. Donc, cette thèse s'occupe d'étudier la construction des structures et des infrastructures dans les Alpes franco-italiennes après la Deuxième Guerre mondiale pour accueillir les touristes en haute montagne. En général, on peut dire que à partir du XXe siècle, les architectes se sont intéressés à la montagne comme champ d'expérimentation. Et la recherche en architecture a commencé à regarder, surtout dans ces dernières décennies, la production alpine comme étant innovante. Pour cette raison, parce que les architectes ont dû se confronter à des caractéristiques, disons, exacerbées du territoire alpin, donc le climat, la pente, etc. En particulier, je me concentre sur la typologie de la station des sports d'hiver, comment ça a été, disons, comment c'est, le modèle qui s'est affirmé en France à partir des années 60, donc dans sa, disons, évolution plus extrême, on peut dire, qui devient la réalisation d'une station en site vierge par un promoteur et un concepteur unique. C'est un modèle qui naît en France, mais qui après arrive aussi en Italie dans un second moment. Quoique la première station, disons, site vierge conçue par un concepteur unique est Sestriere, qui est un cas plutôt unique parce que se trouve en Italie et c'était conçu dans les années 30. Donc, la recherche en architecture s'est intéressée à cet objet, disons, au moment de la dernière décennie, à partir des années 2000. Et là, comme ça a été déjà rappelé avant, on s'est appuyé sur un type d'étude, qui reconnaissent une évolution des générations des stations de sports d'hiver pour questionner surtout la place de l'architecture moderne en montagne. Donc on a, par plusieurs chercheurs qui ont étudié ça, on a questionné la naissance et l'arrivée de la modernité en montagne, son évolution et peut-être sa disparition à partir du milieu des années 70. Là, c'est le cas plus connu, c'est le cas de La Plagne, où les mêmes architectes, dans une dizaine d'années, conçoit trois parties de la station. Et les trois typologies sont des typologies totalement différentes. Donc, on a les paquebots de neige, mais tout de suite après, on a une proposition d'un village. Disons néo-traditionnel. Et donc, la recherche en architecture a été guidée par une idée que je peux expliciter avec cette citation de Raffieston, que l'architecture touristique était conçue hors du lieu, donc qui était peut être étudiée comme une simple concrétisation des imaginaires d'architectes à l'intérieur du réseau des acteurs, etc. Et la chose que, disons, j'ai pu remarquer après mon arrivée en France, c'est que je suis entrée en contact avec toutes les études et tous les enjeux de ce territoire alpin aujourd'hui, et disons toutes les études qui d'autres disciplines mènent sur ces types de territoires. Et avec tous les problèmes liés forcément au changement climatique, à la conjoncture économique, des enjeux liés à l'aménagement du territoire, et sont toutes des questions, disons, qui m'ont permis de élargir l'échelle de mon objet d'étude. Et donc, la question que je pose, si l'objectif de cette recherche est de comprendre comment s'est achevée cette construction d'une architecture pour le tourisme des masses, l'échelle à laquelle j'essaie de comprendre ce phénomène, c'est une échelle qui intéresse un territoire au sens plus large. Et j'utilise le mot territoire comme certains, disons, architectes et urbanistes l'ont utilisé en France, en Italie, à partir des années 60. Donc, les territoires, c'est d'une part les territoires géomorphologiques, mais aussi un territoire culturel, social ou politique, etc. Et l'hypothèse sur laquelle je travaille maintenant, c'est vraiment, disons, le travail que je mène en ce moment, c'est d'essayer de recomprendre cette histoire en passant d'un concept de réflexion sur un objet architectural vers la réflexion sur la construction de systèmes d'infrastructures dans un territoire. Donc, prendre d'importance pas seulement les bâtiments, mais aussi les édifices, mais aussi tous les réseaux techniques qui arrivent avec, et les relations entre les acteurs et ces composantes du projet d'aménagement. Donc, je vais essayer, là maintenant, je suis dans ce type d'expérimentation, et je vais essayer, à travers deux cas d'études, de proposer des observations, une lecture qui prend en compte cette complexité. Et je fais ce travail à partir d'un corpus qui est un corpus d'archives d'architectes, qu'on verra après. Donc, disons, j'interroge ces deux systèmes, le système des acteurs avec l'architecte, bien sûr, mais aussi tous les autres acteurs qui participent à la construction d'une station. Et de l'autre côté, les territoires avec toutes les composantes géomorphologiques, culturelles, etc. Alors, je considérais jusqu'à ce moment comme cas d'étude de stations qui ont vu l'intervention de Laurent Chappie comme urbaniste et ou comme architecte. Laurent Chappie, pour ceux qui ne le connaissent pas, était un urbaniste architecte qui a travaillé toute sa vie sur la question de l'aménagement de la montagne. Et il a travaillé pas seulement en France, mais il a proposé des projets plus ou moins aboutis sur les Alpes, mais aussi dans presque toutes les montagnes du monde, au moins comme un projet utopique, comme proposition d'idée. Et pour moi, c'est très utile parce que dans le cadre d'une thèse qui a une perspective transfrontalière, c'est intéressant parce qu'on voit comment le même architecte travaille sur les deux côtés des Alpes. Donc, je vais partir par la station de Pila, qui est à côté de Aosta, donc en Italie. L'exercice que j'ai essayé de faire, c'était de décortiquer toutes les relations entre les acteurs et d'isoler certains éléments qui font partie du système de territoire pour comprendre un peu les relations entre eux. Avec l'aide d'une frise chronologique, j'essayais de, d'un côté, disons, faire ordre dans tous les processus de conception de station à travers tout ce qui était, disons, les connexions entre les différents acteurs, donc l'architecte, le pouvoir local, l'aménageur privé, la société privée d'aménagement. Et de l'autre côté, d'essayer de comprendre à travers un corpus qui est basé sur les archives d'architectes, dans ce cas les archives des Chappie, l'évolution du projet imaginé et construit. Donc, par exemple, dans le cas de Pila, si je prends une parenthèse de l'histoire de la station, que c'est la parenthèse qui voit l'action de Chappie. On voit que l'initiative, à partir des années 50, est une initiative privée et que la société qui prend cette initiative est franco-italienne, qui signe un accord avec la commune de Gressin et la région Val d'Aoste et qui demande à Chappie de produire un projet d'aménagement. En même temps, la région et la commune de Gressin accordent la possibilité à la société privée de poursuivre en produisant des plans d'urbanisme, des plans de réglementation qui, par exemple, permet la maîtrise du foncier à la société privée. Après, il y a aussi à partir de la fin des années 60, la société Stifa devient Alpila, où on voit aussi une participation de la région dans les actions de la société. Donc, cette initiative privée avec une possibilité d'achat, disons, puissante, permet de, effectivement, au début de cette initiative, de réaliser une maîtrise du foncier. Et donc, par exemple, j'essaie d'examiner sur le matériau que j'ai jusqu'à ce moment, l'action de la société qui achète en partie du foncier. Et si celle-là, c'est une carte où on voit encore une division de parcelles avant la réalisation de la station, après on verra juste les zones où la société privée peut aménager et construire une station. L'autre chose qui je trouve intéressante, c'est qu'effectivement, on a des documents très similaires entre les documents que Chappie produise pour la société et qui sont proposés à la région et les documents d'urbanisme que la région approuve pour, faire une réglementation du territoire de la station. Et donc, l'architecte était vraiment soit l'architecte de la société, soit, dans ce cas, un architecte qui conseillait le pouvoir local. Sur le point de vue du réseau d'infrastructure, moi, j'ai essayé d'isoler quelques éléments. Donc, j'ai regardé les fonciers et maintenant, je regarde un peu le réseau d'infrastructure qui permettait l'accès à la station. Donc, pas vraiment les équipements mécaniques, mais la situation plus à l'échelle un peu plus large. Donc, cette carte, c'est un extrait d'un plan d'urbanisme qui a été finalisé dans l'année 55, donc avant que Chappie intervienne à Pila. Et la réflexion est concentrée sur la possibilité de lier la station de Pila avec la ville d'Aoste, qui est vraiment à côté. Donc, je ne vais pas expliquer la situation topographique, mais... je vais passer après la guerre. Donc, le projet de Chappie montre une autre échelle de travail. Donc, à la fin des années 60, on est dans un moment où, autour de Pila, il y a le tunnel du Mont-Blanc qui s'ouvre, le tunnel de Saint-Bernardo qui s'ouvre, et un réseau autoroutier qui permet de lier Aoste avec Milan et Turin. C'est à ce moment-là qu'effectivement on commence à appeler Pila une station internationale et qu'effectivement l'aménagement de la station change pour cette nouvelle vocation de Pila. J'avais commencé à étudier de la même façon aussi la station de Chambrousse, que j'ai essayé de comparer avec la station de Pila pour l'effet de la connexion avec une ville en proximité. Après, je me suis rendu compte que l'histoire, c'est complètement différent. Donc là, on voit une initiative publique et donc un lotissement très différent du territoire, une initiative publique et locale. Et je vais passer vraiment vite parce que j'ai pas le temps suffisant. Et encore une fois, l'intervention de Chappie qui essaie de relier les deux parties de la station jusqu'à la proposition d'un plan d'aménagement qui sera jamais proposé mais qui dépasse vraiment la pensée de l'aménagement de la fin des années 50 parce que c'est un plan d'aménagement qui occupe tout le massif de Chamrousse. Donc, la ligne rose, c'est un dessin que j'ai fait pour délimiter la bordure de la bordure administrative. Mais on voit que Chapy diffuse toutes les fonctions sur disons une échelle vraiment territoriale. La chose intéressante, c'est que dans les mêmes archives d'architectes, j'ai trouvé cette carte qui date des années 40. Donc c'est le premier projet pour Chamrousse qui était mené par un groupe de communes qui était au pied du massif. Et on retrouve en effet la même, disons, au moins échelle territoriale. Donc deux réflexions pour poursuivre dans mon travail et pour conclure la présentation. D'un côté, je me suis demandé à un certain moment, avec cette approche, disons, systémique que j'essaie de mettre en place, quel devient le rôle de l'architecte dans l'aménagement de ce territoire. Et une piste, c'est de, par exemple, remarquer qu'effectivement, mon corpus, c'est que des archives d'architectes pour le moment. Et donc, à travers ça, j'ai pu reconstruire tous les processus. C'est-à-dire qu'au moins pour le cas de Chapy, il était informé de toute cette complexité et il pouvait aussi informer les autres. Et pour conclure ici, l'idée à la base de cette recherche, c'est d'essayer de comprendre l'histoire de l'aménagement de ces stations pour effectivement comprendre, comme j'ai commencé à faire avec le travail sur les cartes historiques, la raison de la situation actuelle, donc pourquoi maintenant on est là, et comme moment préalable pour le développement des stratégies pour le futur. Merci.